Les coqs chantent les jours pareils, tous se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Puis cet après-midi, comme cerise sur le gâteau, donc on va revoir ou découvrir certains de nos intervenants pionniers de l'agroécologie en France et puis on ira au Canada et aux États-Unis.
Aujourd'hui, dans le Coq Chante, nous allons vous parler des rencontres internationales de l'agriculture du vivant qui se sont tenues du 20 au 23 février dernier à Paris. L'objectif central de ces rencontres entre différents acteurs engagés dans des démarches de progrès pour améliorer les pratiques tout au long de la chaîne agroalimentaire, c'est la fertilité et la santé des sols en agriculture. Plus de 1700 auditeurs ont suivi ces rencontres internationales de l'agriculture du vivant, dont 65% d'agriculteurs représentatifs de toutes les filières. Pourquoi une telle mobilisation? C'est parti d'un constat limpide, clair et partagé au-delà des frontières. 95% des sols agricoles perdent de la matière organique et de la fertilité, des stocks du carbone et ne produisent plus de vie. A-t-on vraiment besoin d'argumenter davantage devant un constat aussi alarmant? Pour dire les choses plus simplement, comment peut-on imaginer pouvoir continuer à produire si l'agriculture telle que pratiquée actuellement continue de tuer le sol? Les réponses de Odette Ménard, ingénieure et agronome qui vient du Canada. Spécialiste de la vie des sols, elle travaille pour le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation du Québec.
Regardez autour de vous. En fait, le sol de base a trois grands éléments, l'argile, le limon et le sable. Et après ça, les bactéries, les champignons et toute la chaîne alimentaire vont altérer la composition en y ajoutant tout leur exudat, la glomaline. Elle va lier ces éléments-là entre eux. Et tout ça ensemble va créer un réseau d'échanges efficace et donc les racines vont pouvoir pousser avec bonheur.
Il faut les trois éléments que vous avez cités. Il faut que ce sol soit aéré, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'air dedans. Et il y a de l'eau.
Exactement. Le sol est fait d'une partie minérale, l'argile, le limon et le sable. Il est fait d'une grande portion d'air et d'une grande portion d'eau. Il n'y a que 5% du sol qui est composé de la matière organique, donc la matière vivante du sol. Et de cette matière organique-là, il n'y a que 5% qui sont réellement les organismes vivants.
On a parlé de milliers, voire de millions d'espèces vivantes dans ce sol.
Des millions et des millions, il y a... C'est incroyable la portion de bactéries qui n'est pas encore découverte et qui est complètement présente dans nos sols.
Parmi ces organismes vivants dans le sol, il y a une vedette, le ver de terre.
Mais en fait, on ne peut pas dire qu'il y a une vedette.
Mais tout le monde en parle ici.
Oui, tout le monde en parle parce qu'on le voit. C'est la seule chose, c'est que le ver de terre, on le voit. Et essentiellement, quand on voit un ver de terre, il y a quatre fois son poids en organisme qu'on ne voit pas. Alors, on ne peut pas développer une sympathie envers une bactérie. De toute façon, en général, dans la tête des gens, la bactérie est synonyme de maladie.
À dire qu'on dit bactérie, nous, on a peur.
Puis pourtant, au-delà de 95% des bactéries sont bénéfiques, on a besoin des bactéries pour survivre. Il n'y en a qu'un faible, faible, faible pourcentage qui nous apporte la maladie. Mais c'est que celle-là qu'on connaît. Mais le ver de terre, je le vois, je peux sympathiser, je peux l'amener à la pêche avec moi et il devient un symbole. Alors, c'est pour ça qu'on parle du ver de terre. Mais en fait, ce n'est que le premier élément d'une chaîne alimentaire extraordinairement belle et essentielle à la santé de nos sols.
Moi, je suis agriculteur. Comment ce ver de terre travaille pour moi?
Bien, il ouvre le ver de terre. C'est un creuseur, il prend la matière organique à la surface, il l'incorpore dans le sol, donc il la met à la disponibilité des micro-organismes du sol. Il aère le sol, il crée des tunnels, il permet le mélange du profil. C'est la charrue naturelle. On dit que Dieu connaît la raison de la fertilité des sols et qu'il en a donné le secret au ver de terre.
Ça veut dire que, par exemple, si moi j'arrive, je mets des produits chimiques pour protéger mes cultures, je laboure, je désherbe mécaniquement, enfin, j'interviens comme nous le faisons actuellement, j'ai tout faux, quoi.
Mais je ne dirais pas qu'on a tout faux. Je dirais que quand on brise l'équilibre fragile du sol, oui, on a une mauvaise influence sur notre sol. Le sol, là, comprenez-le simplement, c'est comme votre corps. Alors, si vous faites la fête pendant un mois en ligne, si vous mangez mal, si vous dormez peu, ben à un moment donné, vous allez craquer. Et c'est ce qui arrive avec nos sols actuellement.
Alors, il n'y a pas que ces micro-organismes dans le sol. Il y a ce que vous avez appelé le couvert, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser le sol nu.
Ben, c'est la première chose. La porte d'entrée, c'est la couverture. On ne veut pas laisser les gens nus. Il faut qu'on soit habillé. Et la deuxième chose, il faut se nourrir. Alors, on habille nos sols. On maintient une couverture, qu'elle soit vivante ou végétale, les résidus de culture après les récoltes. Et après ça, il faut nourrir le corps, il faut nourrir le profil du sol en maintenant des racines vivantes. Et c'est pour ça que les cultures de couverture sont mises en place et tous les couverts végétaux et tous les itinéraires qu'on est à mettre en place pour s'assurer que le plus grand nombre de jours par année, notre sol va être plein de racines vivantes qui va maintenir sa santé.
C'est-à-dire qu'il sera protégé contre l'érosion hydrique, contre le vent, les infiltrations, ouais, ça c'est d'un.
C'est comme nous, il va être immunisé contre les maladies, puis quand les intempéries vont arriver, il va être capable de s'en sortir.
Alors, ce que vous appelez agriculture du vivant, c'est mettre tous ces alliés naturels-là, en fait, du côté du producteur.
Exactement. C'est tout aussi simple que ça.
Je vous remercie.
Ça me fait extrêmement plaisir.
Il peut sembler étrange de devoir expliquer de telles choses parce que de toutes les façons, le sol, c'est l'intrant numéro un dans le processus de la production alimentaire. Il s'agit aujourd'hui pour l'homme de retourner sur ses pas pour récupérer un savoir-faire ancestral qui permet de produire tout en respectant la fertilité des sols, qui allie les bienfaits en matière d'environnement, de diversité et de séquestration de carbone, de filtration de l'eau, d'augmentation de revenus et de production d'une alimentation saine et en grande quantité. En somme, une agronomie qui fait avec la nature et non plus contre elle. François Mullet est maraîcher dans l'Eure, à Breteuil-sur-Iton, est responsable de Vers de Terre Production. Son groupement est un peu à la base de ces rencontres internationales de l'agriculture du vivant édition 2019.
Alors c'est pas une association, c'est un organisme de formation en fait que j'ai monté pour former les agriculteurs à l'agroécologie, au semis direct sous couvert, toutes les techniques agricoles qui vont dans le sens du respect des sols et de la vie dans les sols. Donc j'ai monté cette entreprise de formation et j'organise aussi parallèlement des colloques, des réunions, tout un tas de journées techniques pour les agriculteurs. Et il m'a semblé que c'était le moment aujourd'hui d'organiser un événement un peu important à Paris pour parler de ces techniques-là. Et nous avons réuni 65 des plus grands spécialistes mondiaux du semis direct sous couvert, de toutes les techniques agroécologiques, de l'agroforesterie, etc.
Ah oui, parce qu'on a dit qu'il y a 65 démarches.
Voilà, il y a 65 démarches, il y a 400 labels.
Là, la discussion devient directe, là, c'est pratique.
Voilà, la discussion devient directe, efficace, on parle technique, et en fait, tout le monde était absolument d'accord. Il faut arrêter de travailler les sols, il faut les couvrir, il faut nourrir les vers de terre, il faut régénérer les sols. Et on a aussi abordé le sujet un peu délicat de la valeur nutritive des produits, puisqu'in fine, c'est un peu un secret de Polichinelle que il y a un lien très fort entre la qualité biologique des sols et la qualité nutritive de nos produits. Et donc ça, c'est le prochain sujet qu'on est en train de développer. Comment on va faire pour mesurer, que les consommateurs puissent mesurer la valeur nutritive des produits qu'ils achètent. Et nous, ça nous intéresse effectivement qu'ils puissent le mesurer, parce qu'on est sûr que ça a un lien avec la qualité biologique des sols.
Monsieur Mullet, je veux voir l'idée. C'est-à-dire que voilà, j'ai un sol, ce que vous appelez un sol vivant, un sol qui se porte bien. Il y a de fortes chances que ma production augmente, soit de qualité, et que du point de vue sanitaire, ma production soit bien, quoi.
C'est ça. On a déjà un exemple très simple. Je vois chez les maraîchers, moi je suis spécialisé dans le maraîchage, les légumes se conservent plus longtemps. Quand on travaille sur des sols vivants, les légumes se conservent plus longtemps. C'est dû tout simplement au taux de sucre et au taux de matière sèche qui est plus important. Parce que dans un sol vivant, la plante, elle se développe de manière plus harmonieuse, elle a un meilleur rendement photosynthétique, elle a plus de matière sèche et donc elle se garde plus longtemps, elle est plus stable.
«
maintenant que j'ai compris le principe, on va revenir à ces 4 jours de rencontre. Ça vient de se terminer, c'est le dernier jour aujourd'hui. La suite, c'est quoi?
Alors ça, c'est une bonne question. Donc la suite, ça va être quoi? Bah, ça va être, je pense, d'en refaire une plus grosse dans 2 ans, avec encore peut-être un peu plus de monde. Mais il va aussi falloir, à un moment donné, y associer un peu plus pleinement les consommateurs. Et ça, ça se fera parce qu'on va commencer à aborder plus profondément la question de la valeur nutritive. Puisque, in fine, c'est quand même ça qui va principalement intéresser le consommateur. Si on veut que notre démarche elle fonctionne, il faut qu'elle aille jusqu'au consommateur, il faut qu'elle intéresse le consommateur. Et donc, il va falloir qu'on lui montre réellement qu'on a une meilleure valeur nutritive. Ça va se faire par un biais qui est que aujourd'hui la mesure de la valeur nutritive, ça coûte encore cher. Une analyse complète, c'est plusieurs centaines d'euros, donc un consommateur ne peut pas aller au supermarché et, estimer réellement la valeur nutritive de ce qu'il achète. Mais on voit qu'avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent, en fait, ce coût, il va être quasiment réduit à zéro. On peut imaginer que dans 3, 4 ou 5 ans, vous aurez dans votre smartphone des outils qui permettent, en fait, de mesurer beaucoup de choses, et notamment la valeur nutritive de ce que vous achetez. Et si ça se fait pas assez vite, c'est nous qui allons le faire. Parce qu'en fait, c'est un enjeu absolument majeur, on est déjà en train d'y travailler, on encourage des sociétés qui sont pionnières sur ces sujets-là à développer cette technologie-là, parce qu'il y a des applications déjà sur smartphone qui vous permettent de scanner les produits et qui vont tirer dans des bases de données des informations qui vous disent si ce que vous achetez, c'est très mauvais pour la santé parce que c'est trop gras, beaucoup trop sucré ou beaucoup trop cuit, ou si c'est plutôt bon parce que c'est des légumes frais ou peut transformer. Ça existe déjà et on voit qu'il y a une forte appétence du consommateur pour ces applications mobiles parce que ça répond à un réel besoin de savoir du client est-ce que je mange des choses bonnes ou pas. Nous, on est convaincus qu'il faut pousser la logique plus loin jusqu'à vraiment la mesure claire et nette de la valeur et ça va arriver dans les années qui viennent. Donc ça va être vraiment la prochaine étape en fait de notre démarche. Et en fait, on voit que c'est en train de se faire. Il faut juste encourager cette tendance.
Je vous remercie.
Merci à vous aussi.
Selon les spécialistes, plus de 75% de la surface de notre Terre subit aujourd'hui les conséquences des activités humaines. Cette dégradation de l'ensol n'est pas sans conséquences sur la vie des hommes, quand on sait que 95% de notre nourriture provient de l'agriculture et que la dégradation pourrait atteindre plus de 90% d'ici 2050. Elle entraîne l'extinction d'espèces et accentue le changement climatique. Elle contribue également au déplacement des populations et à la multiplication des conflits. On comprend donc pourquoi les initiatives sur la santé des sols se multiplient dans le monde. Rien qu'aux rencontres internationales de l'agriculture du vivant, on dénombre 65 démarches. Alain Canet est agronome et agroforestier. Il travaille dans une structure qui s'appelle Arbres et Paysages 32, dont le credo, c'est le stockage de carbone.
L'agriculture du vivant, c'est du bonheur. C'est du bonheur, c'est avant tout de l'agronomie, c'est de l'agroécologie, c'est de faire valoir le travail des agriculteurs qui depuis longtemps, depuis plus de 20 ans, couvrent les sols, les protègent, plantent des arbres, font de l'agroforesterie. Donc l'agriculture du vivant, ça vise à fédérer et valoriser les produits d'une agriculture vraiment basée sur le socle fondamental de l'agronomie et de l'agroécologie.
Vous avez commencé votre intervention tout à l'heure avec un chiffre qui a laissé les gens sans voix. 95% des agriculteurs, des producteurs, seraient en perte de masse organique, vous avez dit, ou bien c'est, je le dis mal.
Non, c'est absolument ça. Aujourd'hui, toutes les agricultures, qu'elles soient grosses, petites, moyennes, toutes les formes de culture, qu'elles soient en organique, en agriculture biologique ou en conventionnelle, perdent de la matière organique. On a de l'érosion partout, on a de la battance, on a de la compaction, et notamment parce que les sols sont beaucoup trop nus et beaucoup trop travaillés. Si je prends l'exemple de l'Hexagone que je connais très bien, même si je vais un petit peu partout et parfois sous d'autres latitudes, dans l'Hexagone, on a 120 jours de sol nu par an et un sol qui est au soleil, qui est au chaud, qui est au froid, qui est battu par la pluie, qui est battu par les orages, il disparaît, il s'en va dans la rivière.
Je vais essayer de voir si j'ai bien compris l'idée. C'est-à-dire, je sème, je récolte mon blé, d'abord je prends les graines, je reviens, je prends la paille, je laisse le sol nu, et comme j'ai eu la bonne idée de labourer en dessous, ça va mal, c'est compacté, ce que vous ne savez pas aéré comme ça devrait l'être. Les organismes vivants, je les ai mis dans des conditions difficiles dans le sol. Et en surface, comme j'ai eu la bonne idée de tout prendre et de laisser le sol nu, En cas de pluie, en cas de vent.
La terre est stérilisée, c'est-à-dire que les micro-organismes, les vers de terre, les champignons qui font la base de la fertilité de la vie du sol sont détruits par la chaleur. Et puis deux jours après, effectivement, l'orage arrive, le gros orage, hein, quelle que soit la latitude. Et puis l'orage emporte toute la terre dans la rivière et le paysan se retrouve fort démuni avec des cultures qui ne poussent plus. Vous avez très bien résumé la situation. Au lieu de laisser le sol nu, d'exporter les pailles, de laisser dessécher au soleil, mais avant de récolter ma céréale, je sème une luzerne, je sème un trèfle et je fais vivre mon sol. Et l'été, au lieu d'avoir un sol nu, j'ai une plante qui pousse. Et une plante qui pousse, c'est une plante qui protège. Et une plante qui pousse, qui protège, c'est une plante qui nourrit le sol. Je l'écrase, donc j'ai même plus besoin de désherber avec ma charrue. Je l'écrase, je fais un paillage, comme la litière, comme la feuille dans la forêt. Et en faisant ce paillage, je ressème une nouvelle culture. Donc je sème une nouvelle culture sur paillage et cette culture est protégée. Et puis éventuellement, je plante et je laisse pousser des arbres autour de mes champs et dans mes champs. Et en plus du blé ou de la céréale, mais j'ai aussi des fruits, j'ai aussi de la biomasse, j'ai du fourrage pour mes animaux. Enfin, une boucle vertueuse.
Il y a un problème, ce que vous avez dit aussi, qu'il y a 65 modèles. J'ai l'impression, moi qui parcours la France, le monde, pour parler avec les agriculteurs, les chercheurs, j'ai l'impression que chacun travaille à trouver une solution dans son coin, quoi.
Mais oui, mais c'est fini. On y a mis un terme. On y a mis un terme à la demande.
Pas ces rencontres-là.
On y a mis un gros terme parce que c'est fini, on peut plus dire, il y a 36 façons de faire l'agriculture. Rien que dans l'Hexagone, on a 16 000 agriculteurs avec nous qui sont fédérés de toutes formes d'agriculture et tous ces agriculteurs ont décidé ensemble de créer pour une agriculture du vivant, dis bien, chaque jour qui passe, j'améliore mon capital sol. Et ça, c'était ni nulle part.
Donc c'est un regroupement d'agriculteurs.
C'est précisément un regroupement d'agriculteurs avec derrière des distributeurs et des transformateurs parce qu'il faut que le riz, il faut que la pâte et il faut que la saucisse soit dans l'assiette. Donc c'est un regroupement d'agriculteurs qui met en œuvre ces techniques dans cette démarche de progrès pour servir la distribution.
Je vais essayer de voir si j'ai bien saisi. C'est-à-dire voilà, je fais tout pour produire un blé de qualité. Il se trouve que ce blé est vendu selon des critères de prix qui ne sont pas fixés par l'agriculteur. C'est sur le marché mondial. On a même dit que sur une baguette que j'achète à 80 ou 90 centimes, 3 centimes reviennent à l'agriculteur. C'est un problème.
C'est un véritable problème. Il faut arrêter cette guerre des prix, c'est plus possible. Aujourd'hui, on a des consommateurs et qui, à juste titre, on pousse beaucoup, veulent une baguette sur sol vivant. Veulent une bonne baguette, veulent une baguette qui protège les écosystèmes. Donc elle a un prix. Elle a un prix et on ne peut pas se permettre, avec à quelques centimes près, de continuer à ruiner les agriculteurs, à avoir des revenus qui sont parfaitement indécents. Donc c'est donnant-donnant. Sauf qu'en payant un peu mieux l'agriculteur, on a un blé qui est mieux rempli, avec une valeur nutritive supérieure. Aujourd'hui, il est vraiment temps. Parce que faire bien, produire et protéger, quelque part, tout le monde l'attend.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Allez, on y va.
Merci.
Nous étions aujourd'hui aux rencontres internationales de l'agriculture du vivant qui se sont tenues du 20 au 23 février dernier à Paris. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission, www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Enfin, pour écouter cette émission sur votre téléphone mobile, vous téléchargez au préalable l'application RFI Pure Radio, vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.